Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous, c'est clairement un levier pour l'égalité homme-femme au sein de la famille, mais au travail aussi. Le congé du deuxième parent va doubler en France, c'est passé de 14 à 28 jours, dont 7 obligatoires. On est loin de la Norvège, par exemple, qui accorde le congé paternel le plus généreux du continent, 15 semaines rétribuées à 100% du salaire. Mais on avance lentement dans la bonne direction, comme l'a constaté Léa-Lisa Westerhoff auprès de jeunes parents à Paris.
Derrière une lourde porte en verre, un sol molletonné en plastique bleu turquoise, des mini tabourets orange, des jouets et des enfants ou des bébés qui explorent. Bienvenue dans la maison des petits du 104, une structure dans le nord de Paris où les parents peuvent venir jouer librement avec leur enfant. Bozan et Marie, propriétaires d'un restaurant dans le 10e, viennent régulièrement avec leur petite fille de 10 mois, Cézanne, qui a jeté son dévolu sur des légumes en bois. Pour ce jeune papa, passer de 14 à 28 jours de congé paternité était une évidence.
Il paraît même étonnant qu'on n'ait pas pensé plus tôt à le faire, quoi. Moi, personnellement, j'ai pris 4 mois. On a besoin de passer du temps avec ses enfants à cet âge-là. Et on parle de le doubler, je pense qu'un peu plus, ça ne serait pas du luxe non plus. Hormis l'allaitement, on est quand même capable de faire tout.
Car si 7 pères sur 10 prennent actuellement leur congé paternité en France, il y a toujours de nombreuses inégalités entre les parents suivant leur type d'emploi. Exemple, uniquement un père sur 2 en contrat à durée déterminée prend son congé, un chiffre qui tombe à 30% pour les indépendants. Une injustice que cet allongement risque de ne pas réparer. Un peu plus loin, Emeraude, 7 mois, découvre une toupie, tandis que sa sœur de 6 ans, les mains tartinées de couleurs, peint une toile sur un chevalet à sa taille. Chantal, leur maman qui habite le quartier, se souvient elle aussi à quel point le congé de 15 jours qu'avait pris son mari était trop court.
C'était dur pour moi, comme j'ai accouché avec forceps, donc on m'a fait aussi l'épisiotomie. C'était dur pour moi. Je m'occupe de moi-même avec les douleurs et l'épisotomie. Mon mari, dès semaine, du coup, elle est partie travailler. C'était très dur avec une fille de 6 ans à la maison, donc c'est dur.
Bravo!
Dan, 18 mois, bien installé à une table à sa taille, s'exerce au dessin, armé de feutres et de crayons gras en forme de triangle plus facile à tenir dans la main. Comme un tiers des parents, Sybille et Fabrice se sont organisés, à leurs frais, système D, jusqu'à ce que Dan ait une place en crèche.
Dans notre cas de figure, ce n'était pas possible que je m'occupe celle de Dan depuis tout petit. Et donc nous, en fait, Fabrice m'a aidée depuis un an et demi. Donc il a arrêté son travail il y a un an. Et voilà, parce que j'avais besoin d'être à deux.
Ce besoin d'être aidé, les mères le formulent dans tous les sondages. Alors que la répartition des rôles auprès des enfants est encore très déséquilibrée, 70% des tâches domestiques et 65% des charges parentales sont assurées par les mères. Pour Gabrielle Doré, membre du collectif PAF, pour une parentalité féministe qui se bat pour un congé paternité égal à celui des femmes, cet allongement à un mois, c'est
une demi-mesure qui est carrément en deçà de toutes nos revendications.
Et rate son objectif, trop court pour corriger l'inégalité entre les hommes et les femmes face à la parentalité.
Si on décide d'avoir un enfant, c'est à deux. Et donc derrière, les répercussions, elles doivent être partagées. Aujourd'hui, elles ne sont pas du tout partagées. C'est les femmes qui vont subir un frein à l'emploi, qui vont être étiquetées avec une présomption de maternité et qui vont subir les conséquences sur le long terme. La mère, elle se retire du marché de l'emploi pendant un certain temps. Et quand elle veut revenir sur le marché de l'emploi, elle part déjà avec du retard. Et en fait, ça, c'est un cercle vicieux qui va s'auto-entretenir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les femmes sont à poste et à compétences égales, moins payés que les hommes. Tant que le congé paternité ou du second parent n'est pas de durée égale, il ne peut pas y avoir de parentalité égale.
Bonjour.
Cet allongement du congé paternité intervient après la remise d'un rapport d'une commission d'experts sur les 1000 premiers jours de l'enfant. Moins ambitieuse que le rapport qui proposait d'allonger le congé paternité à 9 semaines, le docteur Romain Dugravier, pédopsychiatre qui a participé à ce travail, n'en reste pas moins optimiste. Pour lui, passer de 14 à 28 jours est une première étape pour changer l'état d'esprit de la société.
Ce qu'on espère avec l'allongement et une partie obligatoire pour le congé paternité, c'est que ça contribue à une vision sur le fait que l'enfant a besoin de ses deux parents pour être élevé, pour grandir, et que le père pourra prendre toute sa place dans l'éducation des premiers temps. C'est-à-dire que le père pourra se lever la nuit, contribuer au biberon si l'enfant est au biberon, ça c'est sûr. Je crois vraiment que c'est pas simplement une question de partage des rôles, mais une question d'état d'esprit.
Reste que ce rapport sur les 1000 premiers jours de l'enfant appelle les autorités françaises à aller beaucoup plus loin, avec la mise en place d'un congé parental de 9 mois, rémunéré à 75% et qui pourrait être partagé à égalité entre les deux parents.
Et l'Allemagne revient de loin. L'image d'une jeune maman qui travaille n'est pas encore perçue de manière entièrement positive dans l'opinion. Mais petit à petit, les choses bougent, surtout grâce à l'introduction en 2007 d'un congé parental. 12 mois pour s'occuper de son enfant, 14 si les deux parents le partagent, payé 60% du salaire et plafonné à 1800 euros. Certainement un outil pour le changement, même s'il reste fragile. À Berlin, David Philippot.
C'est une pratique qui rencontre de plus en plus d'adeptes. Aujourd'hui, 37% des pères s'arrêtent pour s'occuper de leur enfant. Ils n'étaient que 3% en 2007 au moment du vote de la loi. Après la naissance du bébé, ils ont 3 ans pour utiliser ce moment entièrement consacré à leur famille. Mais dans leur immense majorité, à 80%, ils ne suspendent leur carrière que 2 mois. C'est la durée minimale prévue par la loi. Rares sont ceux qui acceptent de sacrifier davantage. En revanche, les mères prennent en moyenne 12 mois de congé, le décalage persiste donc dans les progressions de carrière, même si les mentalités évoluent. À Berlin, on voit beaucoup de papas dans les squares et pendant ce congé parental, ce sont eux qui s'occupent des rendez-vous chez le pédiatre, des cours de bébé nageur et des courses pour la famille. Le problème, c'est que l'épidémie de Corona est en train de bouleverser la donne avec les difficultés financières qui sont apparues. Davantage de pères, dont les salaires sont souvent plus élevés, se sentent obligés de faire une croix dessus, surtout que les vieux préjugés subsistent. Ici en Allemagne, il reste naturel pour les mères de s'arrêter 2 ans pour élever leur enfant, quitte à abandonner leur carrière si elles en ont plusieurs, à défaut de quoi les mamans sont rapidement cataloguées comme des « Rabenmutter », des mères indignes. La ministre de la Famille a rappelé cette semaine les hommes à leur responsabilité familiale, l'égalité au travail et la participation à l'éducation des enfants, a-t-elle dit, sont les deux faces d'une même médaille.
La Suisse était vraiment à la traîne, un peu comme la Grèce qui n'accorde que 2 jours d'arrêt de travail aux conjoints salariés. Mais dimanche dernier, les Suisses ont voté par référendum pour accorder 2 semaines de repos aux nouveaux papas. Il en faudra bien sûr beaucoup plus pour bouleverser le modèle familial. Reportage auprès de jeunes parents à Genève, signé Jérémy Lanche.
Le lit, la table à langer, la poussette, et puis voilà ce qu'on a besoin pour un petit nourrisson. Puis il a l'amour de ses deux parents, donc c'est surtout ça.
Renata, la future maman, nous fait visiter la chambre de sa petite fille. La naissance est prévue dans quelques jours, mais tout est déjà prêt. Prêt également le papa, Jonas. Il travaille pour le gouvernement régional de Genève. Un statut privilégié, puisque contrairement à la plupart des travailleurs, Jonas a déjà droit à quelques jours de repos pour une naissance. Et il juge très sévèrement le système qui prévalait jusqu'ici, en Suisse.
À l'état de Genève, on est déjà au bénéfice des 10 jours de congé à la naissance d'un enfant, donc je me réjouis d'étendre ça pour les autres employés qui pour l'instant n'ont qu'un jour, je crois, et c'est assez misérable, c'est lamentable.
Un jour de repos, c'est en effet ce que le droit suisse accordait jusqu'ici au papa. On parle de jours de congé usuels, à prendre pour une naissance, mais aussi un déménagement ou un rendez-vous médical. La loi ne faisait aucune différence entre ces événements. Complètement dépassé, estime d'ailleurs Jonas.
Dans une entreprise privée, un ami avait eu un collègue qui allait être papa de jumeaux. Et puis l'employeur, assez fier, a dit « Ah, ben, comme t'as des jumeaux, je te donne pas un jour, mais 2 jours de congé paternité. Comme ça, pour chaque enfant, t'as un jour. » Et je trouvais ça assez ironique et triste de faire un peu de l'humour et une pseudo-générosité comme ça qui est absolument dérisoire et presque insultante.
Des employeurs comme celui de Jonas essaient pourtant de montrer la voie. Les entreprises de la grande distribution comme Migros ou Lidl accordent déjà plusieurs semaines aux jeunes pères. Pareil chez Google, Nestlé ou le groupe pharmaceutique Novartis. IKEA Suisse a même fait campagne pour le congé paternité avec une affiche en forme de notice de montage d'un meuble. Sauf qu'il s'agissait d'expliquer comment voter oui au référendum. référendum. Le congé paternité a finalement été accepté par plus de 60% des électeurs, mais jusqu'au bout, Jonas a redouté un échec à cause de l'opposition des partis de droite qui dénonçaient une mesure trop coûteuse pour le secteur privé.
On dit, ben voilà, les PME, ça va être difficile, il va falloir serrer la ceinture. C'est vrai que les Suisses ont tendance à vite réfléchir et à dire, ben peut-être que si économiquement on fonctionne bien, c'est justement parce qu'on a des mesures comme ça qui sont peut-être pas très généreuses et un peu restrictives, et que de passer à des congés paternité plus longs, ben peut-être que ça coûte socialement trop et que les gens estiment que c'est aux mamans d'assumer seules la maternité.
La maman, justement, qu'en pense-t-elle ? Comme Jonas, elle a voté oui au référendum, convaincue que la parentalité se fait à deux et qu'elle ne repose pas uniquement sur les épaules de la mère. Le congé maternité en Suisse n'est d'ailleurs pas un modèle du genre. Il est fixé à 14 semaines. C'est le minimum selon la loi européenne. Surtout, comme pour le congé paternité, la Suisse a longtemps traîné des pieds. Avant 2005, le congé maternité suisse n'était pas obligatoirement payé. De quoi nourrir les discussions entre Renata et ses proches installés à l'étranger.
Je discutais hier avec ma cousine qui se trouve en Hongrie et elle m'expliquait que justement le congé maternité, la femme, dès qu'elle accouche, elle a 2 ans avec son salaire à 100% et j'étais assez choquée. Elle me demandait justement comment ça se passait en Suisse. Je lui ai parlé des votations. Elle me dit mais c'est fou. Pourtant c'est la Suisse. Je veux dire normalement on est assez avancé mais là-dedans pas.
Ah, on a de la visite.
Bonjour, monsieur
Béchard. Renata et Jonas doivent interrompre la conversation pour faire entrer le technicien de la régie venu régler un problème de fuite dans le plafond. Et ça, ça les inquiète beaucoup plus que la naissance.
Vous disiez finalement, le bébé, c'est pas votre souci. Votre souci, c'est les fuites qu'il y a dans le plafond, en fait.
Ah ben là, pour l'instant, ouais, c'est ce qui est le plus compliqué. Le bébé, pour l'instant, c'est tranquille. Enfin, pour moi, en tout cas. Le rapport d'importance va vite changer. La fuite va devenir un détail.
Oh, il y aura d'autres genres de fuites.
Je voulais pas la faire.
Et depuis notre rencontre il y a quelques jours, Renata a accouché d'une petite Elisabeth. Avec sa maman, elle se porte très bien. Jonas, lui, a entamé son congé paternité. Il réfléchit désormais à prendre un congé parental.
Et à noter qu'à l'autre bout de l'échelle, l'Espagne veut porter une réforme de société qui sera un modèle en Europe. Le congé du deuxième parent, qui est aujourd'hui de 8 semaines, va être porté à 16 l'année prochaine, soit l'équivalent du congé maternité. Et dans quelles conditions le congé parental ou paternel fonctionne ? Pourquoi permet-il de rééquilibrer l'investissement des deux parents dans la famille ? La réponse se trouve peut-être en Irlande. Dans ce pays, le partenaire a le droit à 2 semaines de congé, mais le manque de souplesse et la faible rémunération de ce congé font qu'il séduit peu les principaux intéressés. À Dublin, Emeline Vin.
Seule la moitié des personnes éligibles ont pris leur congé paternité en 2018, selon les chiffres les plus récents, 55%. Un chiffre qui cache une réalité très diverse. 2/3 des travailleurs de l'éducation nationale ont pris leur congé, un tout petit peu moins chez le reste des fonctionnaires. Les pires secteurs, l'agriculture, la construction et l'hôtellerie-restauration. Pourquoi tous les papas ne profitent-ils donc pas de ces 2 semaines disponibles dans les 6 mois après la naissance de leur bébé ou l'adoption d'un enfant ? Pour raison financière, d'abord. L'allocation versée par le gouvernement s'élève à 245 euros par semaine. À titre de comparaison, c'est à peine quelques euros de plus que le chômage et moins que le SMIC. Certains employeurs complètent, mais pas tous. Et puis, il y a l'argument administratif. Il faut avertir le ministère des Affaires sociales 4 semaines avant la pause du congé paternité, 12 pour les auto-entrepreneurs. Or, une naissance, ce n'est pas toujours prévisible au jour près, 1 mois à l'avance. De quoi creuser les inégalités dans le foyer entre la mère et son ou sa partenaire. Le Conseil national des femmes espère que la crise du Covid va permettre aux décideurs politiques d'accorder plus de place aux femmes dans l'économie. Le groupe réclame entre autres mesures l'augmentation de l'allocation du congé paternité à 300 euros par semaine et surtout le doublement de ce congé à 4 semaines pour commencer à réduire les inégalités à la maison, à défaut de briser le plafond de verre pour les femmes dans la sphère professionnelle.
Et c'est une réforme d'une toute autre nature que vient d'adopter l'Italie. 35% de parlementaires en moins. En France, un projet de loi évoque une baisse de 25%. Alors, pourquoi ces coupes? Pourquoi deux assemblées? Une chambre haute, une chambre basse? Daniel Vigneron du site MyEurope.info répond à toutes ces questions. Bonjour Daniel.
Bonjour Frédéric.
Pourquoi l'Italie supprime-t-elle le tiers de ses élus nationaux?
Cette initiative a été portée depuis le début par le mouvement anti-système 5 étoiles, qui est toujours membre de la coalition gouvernementale avec le Parti démocrate de centre-gauche. Une vieille idée à connotation assez populiste qui revient à se demander à quoi servent d'aussi nombreux élus nationaux qui, en Italie, coûtent annuellement au budget 1,5 milliard d'euros. Mais la suppression de 351 élus du peuple, 230 députés et 121 sénateurs, ne va générer que 82 millions d'euros d'économies, soit une baisse de 5% des dépenses, ce qui n'est pas énorme. En France d'ailleurs, le projet de se passer de 144 députés et de 87 sénateurs ne promet pas d'économiser plus de 87 millions d'euros.
Mais en France comme en Italie, les parlementaires sont-ils plus nombreux qu'ailleurs en Europe?
Si l'on rapporte le nombre de parlementaires à la population, on constate qu'avant la réforme, l'Italie comptait plus de députés et sénateurs que l'Espagne et que la France, qui se situe à cet égard en milieu de peloton des 6 pays les plus peuplés. Mais le pays le moins pourvu en parlementaires est l'Allemagne, dont la Chambre haute, le Bundesrat, compte seulement 61 membres. En revanche, le Royaume-Uni, avec les 773 membres de sa chambre haute, la chambre des Lords, et les 650 députés de la chambre des communes, est de très loin le grand pays comptant le plus d'élus nationaux. Cela dit, après sa réforme, l'Italie va se retrouver pratiquement au niveau de l'Allemagne, avec seulement un parlementaire pour 100 000 habitants, et la France n'en serait pas loin si son projet devait aboutir.
Et combien de pays de l'Union disposent de deux assemblées parlementaires ?
Dans l'UE, en incluant toujours le Royaume-Uni, 13 pays sur 28 ont ce que l'on appelle un régime bicaméral, les 15 autres se contentant d'une seule assemblée législative. Les régimes bicaméraux concernent essentiellement les pays les plus peuplés, plus de 9 millions d'habitants, à l'exception de l'Irlande et de la Slovénie. Quant aux régimes monocaméraux, seuls 3 pays de plus de 10 millions d'habitants en disposent, la Suède, le Portugal et la Grèce.
Et ces chambres hautes ont-elles un pouvoir comparable, Daniel ?
Toutes les hautes assemblées, y compris en France, ont un pouvoir équivalent à la Chambre des députés en matière de révision constitutionnelle. D'autre part, presque partout, les sénats participent activement au pouvoir législatif, mais ce sont les députés de la Chambre basse qui ont le dernier mot. On note cependant qu'en Allemagne, le Bundesrat dispose d'un veto absolu pour toute législation portant sur des sujets impliquant le pouvoir des Länder. En Espagne, le Sénat doit impérativement autoriser les mesures gouvernementales coercitives concernant les communautés autonomes. Mais il n'y a qu'un seul pays de l'Union ayant un système bicaméral parfait, c'est l'Italie, où le Sénat dispose des mêmes pouvoirs que la Chambre des députés.
Mais dans de nombreux pays européens, on s'interroge sur la composition de cette deuxième chambre.
Il est vrai que les chambres hautes sont traditionnellement plus conservatrices que les chambres basses. Cela s'explique notamment par le fait que les sénateurs ont en général un âge minimal requis plus élevé, qui a cependant été récemment abaissé dans plusieurs pays. Par ailleurs, la plupart du temps, les sénateurs sont élus au suffrage indirect, puisque c'est le cas dans 7 pays sur 13. Et que dire du Royaume-Uni, qui s'efforce de réformer à petits pas sa Chambre des Lords aux relents quasi féodaux. Outre-Manche, pas même de suffrage indirect, les Lords sont nommés à vie par la reine, sur proposition du Premier ministre, et 92 d'entre eux, les Lords héréditaires, ont même conservé un siège dont ils avaient hérité. Cela dit, cette assemblée plutôt rétrograde, elle ne compte qu'un quart de femmes, a vu ses prérogatives progressivement diminuer depuis un quart de siècle et n'exerce plus qu'un pouvoir législatif complémentaire à celui de la Chambre des communes.
Merci Daniel Vigneron, à très bientôt.
À bientôt Frédéric.
Accent d'Europe est réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site à la rubrique podcast Accent d'Europe et sur les réseaux sociaux. À demain.